Père Christian, Père Bernard, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour.
Voilà, nous sommes là aujourd'hui avec vous tous les deux pour parler de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Alors peut-être avant d'en parler, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Voilà bien, bonjour. Je suis le père Christian Flotte. Je suis le provincial des pères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, provincial de France. Et donc, je réside à Paris, rue de Picpus.
Voilà, moi, donc, le père Bernard, je suis aussi, je réside à la rue de Picpus à Paris. Et mon travail est entre autres d'accompagner les fraternités et de laïcs de la congrégation. Je m'occupe également des causes de canonisation et je prêche des retraites, je fais des sessions de formation, des choses comme ça. Voilà.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci Père Christian, merci Père Bernard. Alors, justement, si on revient un petit peu sur l'histoire, l'historique hein, de cette congrégation et puis aussi peut-être son ou ses fondateurs.
Voilà, alors, je ne dirais pas un fondateur, mais deux, car nous avons deux fondateurs. Nous sommes une congrégation assez particulière dans l'Église. C'est que c'est une congrégation à trois branches. Il y a des sœurs, des frères et des laïcs. Et donc, nous avons un fondateur, le père Pierre Coudrin, et une fondatrice, la mère Henriette et mère de la Chevalerie, qui sont tous les deux des Poitevins et qui ont fondé la congrégation pendant la Révolution française. Et je dirais que notre congrégation a commencé dans un grenier, où notre fondateur, qui était un jeune prêtre, devait se cacher parce qu'il était poursuivi par les révolutionnaires. Et c'est là qu'au cours d'une nuit d'adoration, il a eu la grâce ou l'intuition de la congrégation. Il me dit que j'ai vu ce que nous sommes maintenant, une troupe de missionnaires réunis ensemble pour répandre l'évangile partout. Et c'est au cours des années de la Révolution, en clandestinité, souvent en danger de mort, qu'il a rassemblé des bonnes volontés, hommes et femmes. Et en 1800, les deux fondateurs ont prononcé les premiers vœux. Donc la date officielle de nos débuts, c'est 1800. Et en 1805, après quelques aventures à Mende, entre autres, eh bien, nos fondateurs sont arrivés à la rue de Picpus à Paris, d'où la congrégation s'est développée et d'où elle a pris son nom aussi, les Picpusiens. Et c'est en 1817 que le Saint-Siège a approuvé la congrégation. Voilà à peu près pour notre histoire rapidement évoquée.
Alors si on parle de votre congrégation un petit peu sur ce qu'elle est aujourd'hui, alors vous l'avez signalé en début d'émission, vous êtes donc tous les deux à Paris, donc Picpus c'est un petit peu la maison mère en quelque sorte.
Voilà. Oui, Picpus c'est un peu le lieu historique, nous comme frères nous ne sommes plus présents sur Picpus, nous n'avons plus de propriété, nous sommes donc dans la propriété des sœurs rue de Picpus. Et c'est un petit peu pour nous le centre, c'est là que les frères des autres pays, des différents pays, aiment venir, aiment passer pour se ressourcer, pour se replonger dans leurs racines.
Alors justement, puisque vous parliez d'autres frères venant d'ailleurs, quelles sont un petit peu les autres implantations de la congrégation?
Alors nous sommes présents dans 33 pays et sur les 5 continents. Donc les provinces les plus anciennes, parmi les plus anciennes sont en Europe, la France, le lieu de la fondation, l'Espagne, l'Irlande-Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, la Norvège, la Pologne, vous voyez. Et les premiers lieux de mission ont été les Hawaï, la Polynésie et puis l'Amérique du Sud. Voilà, donc nous sommes présents aux États-Unis, aux Hawaï, en Océanie, à Fidji, en Polynésie française, à Tonga, et puis beaucoup de pays d'Amérique du Sud, hein, l'Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, ainsi de suite, hein, Équateur, Pérou, voilà. Et en Asie, une fondation peut-être un peu plus récente, qui a moins d'une centaine d'années, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, les Philippines, Singapour, et aussi en Afrique, en République démocratique du Congo et au Mozambique. Notre congrégation est une congrégation missionnaire. Très tôt, nous avons quitté la France pour partir en mission avec comme perspective d'annoncer l'évangile, de répandre l'évangile partout. Et le Saint-Siège donc nous a confié des missions comme l'Océanie et d'autres pays.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette grande, grande activité missionnaire dont vous venez de parler à l'instant, et vous avez également, vous participez donc à la formation des séminaristes, c'est ça ?
Oui, nous avons donc différentes maisons de formation. Donc pour il y a des noviciats, les noviciats sont regroupés à peu près par continent, ou plusieurs par continent. Il y en a deux pour l'Europe, un noviciat en Espagne et un noviciat en Pologne. Il y a un noviciat pour les États-Unis, pour l'Océanie, un noviciat pour l'Amérique du Sud, et puis en Asie, à cause des difficultés à se déplacer et du nombre, il y a plusieurs noviciats en Indonésie, aux Philippines, en Inde. Voilà. Évidemment, en Afrique aussi, il y a un noviciat. Et les lieux de formation sont aussi répartis davantage par province, c'est-à-dire par différents pays, puisque la formation a lieu, je dirais, inculturée dans le pays où vivent les jeunes frères qui rentrent dans la congrégation, même s'ils vont faire une spécialisation dans un autre pays par la suite.
D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez un habit qui permet de vous reconnaître par rapport à d'autres congrégations ?
Alors nous avons, nous avons un habit composé d'une soutane blanche et puis d'un scapulaire. Hein. Mais ce qui est le plus, peut-être le particulier pour nous, c'est l'emblème que nous avons sur le scapulaire. L'emblème qui représente les Sacré-Cœurs, avec plusieurs éléments, la couronne d'épines. L'emblème représente un petit peu notre vocation, notre mission, notre charisme. L'emblème est formé donc des deux Sacré-Cœurs, avec entouré d'une couronne d'épines, pour nous rappeler cette parole de l'Évangile, ils tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur la tête de Jésus. C'est la couronne du roi qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie. Voilà, et ça dit aussi quelque chose de notre spiritualité. Il y a les deux cœurs unis, le cœur de Jésus et de Marie, qui nous rappellent que la place de Marie, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, nous dit Saint Jean. Et ces deux cœurs nous parlent de l'incarnation, c'est-à-dire comment Dieu prend chair, comment il s'incarne. Et le cœur, vous savez, dans le sens biblique, c'est le centre spirituel de la personne, d'où surgissent l'amour, la bonté, la miséricorde, autant d'éléments que nous sommes invités à manifester, à vivre et à manifester dans notre mission. Alors sur cet emblème, il y a aussi le feu, puisque Saint-Luc nous dit, voilà, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Le feu reprend un petit peu toute notre vocation missionnaire. Le feu exprime le désir de Jésus, un désir que le règne de Dieu puisse tout transformer par amour. Évidemment, dans notre emblème, il y a aussi la croix sur le cœur de Jésus qui nous rappelle la parole de Saint Jean « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Voilà, notre fondateur disait « Nous sommes et nous serons toujours les fils de la croix ». Il y a aussi dans notre emblème la blessure du cœur de Jésus, le cœur ouvert, qui nous rappelle cette parole de Saint Jean « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Et la blessure dans le côté de Jésus crucifié est pour nous source de grâce, source de vie, et c'est un peu ce qui nourrit notre vie spirituelle. Voilà, ce cœur qui a tant aimé le monde, c'est un cœur qui est blessé. Il y a aussi l'épée qui transperce le cœur de Marie, et Marie qui vit avec le cœur transpercé par la parole de Dieu, par le conflit causé par son fils et par la douleur du refus de la passion. Et enfin, il y a une couronne de fleurs autour de Marie, qui rappelle le cantique des cantiques comme une rose entre les épines. Et cette couronne de fleurs se réfère traditionnellement à la prière du rosaire, à l'invocation de Marie que nous pouvons méditer à travers les mystères de la vie du Christ, ces différents âges dont nous parlons tout à l'heure. Voilà, vous voyez, l'emblème qui est un particulier de notre habit religieux enveloppe un peu toute cette dynamique de Pâques avec l'évocation de la Passion et puis l'envoi en mission. Voilà un petit peu ce qui caractérise notre habit.
Alors peut-être, Père Christian, Père Bernard, en allant un petit peu plus loin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la spiritualité qui est propre à votre congrégation, son charisme ?
Oui, alors je crois qu'il y a déjà certaines choses qui ont été évoquées. Je rappellerai d'abord le nom complet de notre congrégation, qui est la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l'Autel. C'est un nom très long et en général on n'emploie que la première partie, mais je crois que ça dit quelque chose de notre spiritualité, de notre manière de vivre. Il y a des phrases de notre fondateur qui sont importantes à ce titre-là, parce que notre fondateur, dans un document qu'il a adressé à Rome pour dire quel était son projet en tant que fondateur de congrégation, et dit, en regardant un peu la situation de l'époque, c'était dans les premières années du XIXe siècle, eh bien, on ne sait plus ce que signifie l'amour du bon Dieu. Alors, ajoute-t-il, nous nous sommes réunis pour répandre l'Évangile partout, en rappelant aux hommes l'amour du bon Dieu. Et je crois qu'il y a cette dynamique dans notre spiritualité de regarder notre Dieu à travers le cœur de Jésus-Christ comme un Dieu d'amour. Et cette conviction que c'est cet amour qui est capable de changer le monde, de le renouveler, de l'améliorer. C'est un amour, comme l'on dit habituellement, un amour réparateur. C'est un amour qui répare les dégâts du péché. Et c'est cet amour même qui était dans le cœur de Jésus que nous essayons d'accueillir dans notre cœur, personnellement, parce que nous avons besoin, nous aussi, d'être réparés, d'être renouvelés. Et c'est cet amour qui nous fait agir. Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de dire que notre mission charismatique dans l'Église, cette mission pour laquelle l'Église compte sur nous et qui est un don de l'Esprit-Saint, c'est de contempler, de vivre et d'annoncer l'amour du Père incarné en Jésus et accueilli par la Vierge Marie, dans le cœur de la Vierge Marie. Et je crois que nous avons là une dynamique qui marque notre vie. Dans notre vie, il y a ce pôle contemplatif, de contempler cet amour manifesté dans le cœur de Jésus. Il y a, je dirais, l'autre pôle qui est actif, annoncer cet amour à travers notre vie elle-même et ce que nous faisons. Et puis un pôle ascétique, cette conversion pour que nous soyons configurés au Christ, pour pouvoir dire un peu comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voilà un peu notre objectif et notre manière d'accomplir cette mission qui nous est confié par l'Église.
Alors justement, frère Christian, frère Bernard, avec les responsabilités que vous avez au sein de la congrégation, quelles sont un petit peu les journées types qui sont les vôtres ?
Ben, une journée type dépend beaucoup de la mission que nous avons. Mais on peut dire que nous essayons d'ouvrir la journée par un temps de prière et de clôturer la journée par un temps de prière. En fonction des différentes missions que nous avons et des responsabilités qui nous sont confiées, nous pouvons avoir un rythme de vie un petit peu particulier à chaque moment de la journée. Mais la journée de missionnaire, c'est de servir l'Église, d'être proche de chaque personne. Et donc, la place de l'Eucharistie, pour nous, est centrale dans la journée. Voilà, nous ne sommes pas dans quelque chose à faire, il faudrait prendre le temps de dire la messe, mais nous sommes dans une dynamique, comment vivre l'Eucharistie, comment vivre de l'Eucharistie pour nous et aussi pour tous ceux vers qui nous sommes envoyés. Avec l'Eucharistie, nous allons à la source de tout ce qui fait notre vie. C'est ce qui nourrit notre vie. Voilà. Alors, il y a donc ce qui va rythmer la vie de nos communautés. Ce sera aussi, donc il y a les temps de prière, ce sera aussi les temps qui rassemblent la communauté. Évidemment, je vous ai parlé des temps de prière, l'office du matin et du soir, l'Eucharistie, les temps d'adoration communautaire, mais aussi des temps plus, peut-être plus gratuits, le temps des repas, qui sont des temps de partage, des temps où se vit la fraternité, et aussi des temps de rencontres communautaires. Ces temps de rencontres sont des temps de partage, des temps où nous essayons d'accueillir ce que l'Esprit nous donne de percevoir et comment nous pouvons nous laisser renouveler dans notre mission. Voilà un petit peu ce qui rythme notre journée, nous ici, mais il peut, quand nous sommes dans les pays missions, c'est un rythme différent, mais il y a toujours ces éléments-là, des temps de prière, des temps de fraternité, des temps de soutien et d'interpellation mutuelle.
Alors justement, là où vous êtes implanté, puisque vous êtes à Paris, comment êtes-vous intégré justement dans la vie de foi, la vie catholique de Paris ou des arrondissements autour de vous? Comment vous êtes intégré dans cette vie de foi et de prière?
Alors, notre fondateur a voulu que nous soyons utiles à l'Église. Et donc, notre mission peut être très diverse. Ici, nous concrètement, à Paris, nous avons une paroisse dans le 20e arrondissement de Paris, la paroisse Saint-Gabriel. Nous avons une œuvre de jeunes qui s'appelle le réseau PICPUS, des jeunes professionnels qui se retrouvent pour vivre un peu leur foi et pour nourrir leur vie, que leur vie soit alimentée par cette spiritualité des Sacré-Cœurs. Ce sont un groupe de jeunes professionnels qui se retrouvent pour chanter dans une chorale, pour un groupe biblique, mais aussi pour un groupe de théâtre, pour un groupe qui visite les lieux de précarité. Voilà, donc nous sommes présents dans ces lieux-là, sachant que nous souhaitons être présents aussi auprès des plus pauvres dans les différents pays où est notre congrégation. Il y a toujours un lieu de présence et de service auprès des plus pauvres. Donc voilà un peu comment nous essayons d'être présents, de répondre aux besoins de l'Église et de servir l'Église là où nous sommes.
Alors, quels sont les temps, un petit peu les temps liturgiques importants et ceux peut-être aussi qui sont vraiment propres à votre congrégation?
Je suis bien embarrassé pour vous répondre. Je ne serai pas très original en vous disant tous.
Oui.
Parce que c'est le cycle de l'année liturgique qui nous permet de contempler tout le mystère du Christ. Et pour nous, c'est très important, c'est central. Évidemment, nous privilégions particulièrement les jours saints, le jeudi saint, le vendredi saint et le jour de Pâques. Mais ce n'est pas très original, en fait. Mais c'est quand même là qu'il y a le cœur du Christ, hein, le vendredi saint. Alors évidemment, il y a la fête du Sacré-Cœur, également au mois de juin, et la fête du Cœur Immaculé de Marie.
Voilà, c'est quand même essentiel.
Oui, tout de même.
Et alors peut-être, vous êtes d'accord, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous avez suivi votre propre parcours de foi, comment un témoignage un petit peu concernant votre appel, en quelque sorte?
Mais vous savez, parler de l'appel, c'est faire référence à la place du Christ dans notre vie. Notre règle de vie nous dit, c'est seulement à cause du Christ et de son évangile que tu t'engages et que tu choisis. Alors, pour moi, la réponse à un appel est le fruit de ce mûrissement de ma relation à Jésus, qui est le Seigneur. Alors, après, cela passe par un choix concret. Et pour moi, la vie religieuse, la radicalité liée à cet appel, la vie missionnaire, la vie nourrie par l'Eucharistie ont été des éléments importants, des éléments qui m'ont aidé à mûrir ma vocation.
En ce qui me concerne, quand j'étais tout petit, je voulais soit devenir pape, soit être chef de gare. Bon, j'ai plutôt opté vers ce qui concerne le pape. Donc, j'ai assez tôt commencé à envisager une vocation sacerdotale. Et quand j'étais adolescent, j'ai fait une retraite dans un monastère à Incalcate, dans le sud-ouest d'où je suis. Et là, j'ai découvert la vie communautaire consacrée. Et je me suis dit, là, c'est quelque chose de peut-être intéressant pour toi. Et enfin, dans le lycée où j'étais, quelques années plus tard, ce qui était un lycée tenu par notre congrégation, j'ai vu une vidéo, si vous voulez, à l'époque, qui présentait la vie du noviciat, du séminaire. Et là, je me suis dit, c'est là que tu dois être. Et c'est ainsi que j'ai cheminé vers l'entrée dans la congrégation. Ça fait 50 ans que ça dure, et je suis bien content.
Si des jeunes vocations naissent, s'ils n'ont pas forcément nécessairement au départ entendu parler de la congrégation, comment ça se passe si quelqu'un veut déjà faire une première, on va dire entre guillemets, une incursion, une découverte voilà, de votre spiritualité ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Nous avons des jeunes qui sont au travail ou qui sont en fin d'études professionnelles et à qui on nous proposons vivre et servir. Ils vivent dans notre communauté et puis ils participent à notre mission. C'est une manière pour eux de mûrir une vocation, de savoir à quoi le Seigneur les appelle. Il y a après le temps du postulat qui est un temps où le jeune vérifie un peu si ce qu'il porte en lui, sa vocation, est bien l'appel de Dieu et si c'est bien à cela que le Seigneur l'appelle. Une fois que ce premier temps est passé, ou vivre et servir, ou le postulat, il y a le temps de noviciat qui est le temps où on trouve les fondements de notre vie religieuse. C'est un temps où nous pouvons poser un peu la manière dont nous allons répondre à une vocation. Le temps du noviciat, donc pour nous en France, il a lieu en Espagne. Et après, il y a le temps des vœux temporaires. Le temps des vœux temporaires, les trois premières années sont dans une maison de formation qui pour nous est dans le diocèse de Créteil à Thiers. Et la quatrième étape, c'est-à-dire après les trois premières années de vœux temporaires, la quatrième étape est une étape où le jeune religieux va être davantage dans une communauté où il va pouvoir participer à la mission parce qu'il sera moins pris par ses études et il pourra vérifier comment se vit notre charisme. Voilà. Mais vous savez, toute notre vie est formation, parce que la formation a pour but de viser une conversion, et donc la conversion est l'œuvre de toute une vie. Voilà un peu les grands moments de notre formation.
Alors, est-ce que dans la congrégation, alors où chez vous, là où vous êtes à Paris ou dans d'autres lieux, est-ce que vous proposez par exemple des accueils de retraitants, des sessions spirituelles ?
Oui, nous proposons des accueils, surtout pour des temps de discernement. Donc au moment entre Noël et le Nouvel An, ou bien alors à d'autres moments de l'année, pendant les grandes vacances ou pendant le Triduum Pascal. C'est un moment où des personnes peuvent venir partager un petit peu notre charisme, notre mission.
Mais nous avons aussi, pas forcément pour les plus jeunes, mais enfin aussi, ce que nous appelons des haltes du cœur. Ce sont des journées de retraite, de récollection, de reprise spirituelle, tous les trimestres que nous faisons ici à la rue de Picpus.
Alors, Père Christian, Père Bernard, avant de rendre l'antenne, est-ce que vous auriez éventuellement quelques mots à partager avec les auditeurs par rapport à cette situation un peu particulière que nous traversons en ce moment en France et pas qu'en France d'ailleurs ?
Voilà, mais la situation que nous traversons est un appel à revoir un peu ce qui donne du goût à notre vie, c'est-à-dire la place de la fraternité, la place de l'accueil, de l'écoute. Et pour nous chrétiens, quelle est la place du Christ dans tout ce qui marque notre vie ? Et je crois que le temps que nous vivons est un temps d'épreuve, mais un temps d'épreuve qui nous amène à aller au cœur de notre vie et de notre foi.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux hein, pour ce temps de partage, pour nous avoir permis de découvrir un peu mieux votre belle congrégation hein, des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie. Alors, je ne l'ai pas dit en entier, hein, Père Bernard.
Oui, merci beaucoup. Voilà, merci à vous.
Merci. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.